J'ai longtemps amarré mon beau bateau d'ado dans tes rues alignées sous la gueule de Rimbaud. Les galets sur les murs du vieux lycée Bazin manquaient un peu d'azur, la mer était si loin. Aux plages de tes pavés, je dessinais mon île. Mes hier nous regardaient, nous aimaient. Charleville.
Attention, les voilà.
Bienvenue sur Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne.
Le devoir de maintenir la paix publique et de protéger tous les citoyens sans exception contre les excès et la subversion.
Les provocations de quelques agitateurs professionnels.
Si les CRS n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu d'émeute. Ils seraient repartis ce matin au petit jour manger leur café au lait.
Grandes idées n'ont pas en vain combattu et les périls contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous lancerons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes pour notre lutte.
Bonjour, nous sommes le 31 mars 2024, vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 et plus précisément à l'écoute de l'émission Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne. C'est une émission qui intervient régulièrement sur Radio Libertaire, tous les cinquièmes dimanches de l'année. Donc c'est régulier, mais il n'y a que quatre dimanches, quatre cinquièmes dimanches dans l'année. Donc pour nous écouter, il faut vraiment le vouloir, il faut le noter sur son agenda. Voilà, les prochains cinquièmes dimanches seront le 30 juin, le 29 septembre et le 29 décembre. Donc voilà, vous avez, si vous avez votre agenda sous la main, je le rappellerai à la fin de l'émission. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans le Val-de-Marne, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Alors, ce qui nous a pas mal occupé ces derniers temps, c'est la situation en Palestine, puisque à l'initiative du collectif de solidarité palestine de Choisy, Orly et Thiers, la CNT, avec d'autres organisations, a rejoint ce collectif. Nous avons prévu également les 27 et 28 avril prochains, à l'occasion de la journée de la déportation, d'évoquer la déportation des Choisiens, donc au cours de la Seconde Guerre mondiale, et puis également celle des républicains espagnols, puisque un certain nombre d'entre eux ont été accueillis dès 1945 à Choisy. Cette année, c'est aussi les 50 ans de la révolution des œillets du Portugal. Et à l'initiative du syndicat EDPIX du 94, aura lieu au 33 rue des Vignoles une journée de mémoire, et ça sera le 18 mai prochain. Nous évoquerons également au cours de cette émission la situation des jeunes des lycées techniques et des centres de formation de l'apprentissage. Voilà, donc avant de développer ces sujets, des informations concernant les permanences syndicales, elles ont lieu dans le Val-de-Marne à Choisy tous les vendredis, à la Bourse de Travail de Choisy, 27 boulevard des Alliés, et c'est tous les vendredis de 17h30 à 19h, au premier étage, au bureau de la CNT. Et ces permanences ont lieu tous les vendredis, à l'exception des vacances scolaires. À Paris, ces permanences syndicales ont lieu au 33 rue des Vignoles, Paris 20e, tous les lundis, de 14h à 18h, les mercredis, de 17h à 19h, et les samedis matins, de 10h à midi. Le samedi matin, c'est essentiellement tourné vers les salariés du bâtiment. Les mercredis, essentiellement vers les travailleurs de l'éducation. Et les lundis, c'est destiné à tout le monde. Voilà. Donc, en attendant de développer ce programme, une première pause musicale.
L'esprit du syndicat coule dans le sang des travailleurs. De pouvoir aussi puissant, il ne s'en trouve pas ailleurs. Car ce frère nul est plus faible que celui qui se défend seul. Le syndicat nous rend fort. Travailleuses solidaires, travailleurs solidaires, tous et toutes solidaires. Mais lorsque nos chants s'unissent, nos paroles les font trembler. Le syndicat nous rend fort. Travailleuses solidaires, travailleurs solidaires, tous et toutes solidaires. Patron n'est qu'un nouveau mensonge de plus. Le syndicat nous rend fort. Travailleuses solidaires, travailleurs solidaires, tous et toutes solidaires. Le syndicat nous rend fort. Nous les femmes du syndicat, nous sommes prêtes pour pas. Nous luttons jour après jour pour détruire le patriarcat. Le syndicat nous rend forte. Travailleuses solidaires, travailleurs solidaires, tous et toutes solidaires. Le syndicat nous rend forte. En nos mains est un pouvoir. plus fort que l'argent convoité. La puissance de votre armée, nous l'aurons démultipliée. Faisons naître ensemble un nouveau monde, des cendres du passé. Le syndicat nous rend fort. Travailleuse solidaire, travailleur solidaire, tous et toutes solidaires. Le syndicat nous rend fort. Le syndicat nous rend fort. Le syndicat nous rend fort.
C'était Solidarité, interprété par la chorale du syndicat du bâtiment de la CNT de la région parisienne. Pour celles et ceux qui fréquentent les manifestations et qui se rapprochent de la CNT, cette chorale commence à être connue et est rejointe donc par de nombreux manifestants et manifestants pour exercer les voix.
Oui, ils ont en plus un carnet de chant tout à fait complet.
Oui. Bonjour Blanche.
Bonjour. Bonjour Aimable.
Voilà, donc vous êtes à l'écoute de Micro-ondes 94, l'émission des syndicats CNT du Val-de-Marne. Alors, depuis le début de cette année, grosso modo, la CNT 94 a rejoint le collectif de solidarité palestine de Choisy-Laurent Roy, Orly et Thiers. Ce collectif a pour but, comme son nom l'indique, d'être solidaire avec le peuple palestinien. Et à l'initiative de ce collectif, les diverses organisations se sont retrouvées pour soutenir et entamer une campagne donc de solidarité élargie avec le peuple palestinien. Dans ce collectif, il y a la CGT, la CNT, qui ont été rejoints après par la FSU, en parti politique. Il y a le Parti communiste, la France insoumise, le NPA et le PS dernièrement. Voilà. Donc, on s'est mis d'accord sur un premier texte pour porter les bases du collectif. Voilà de quoi il s'agit. Le premier texte qui a été publié et dont les tracts ont été distribués en vue d'un rassemblement qui a eu lieu le 8 février dernier. Depuis plus de 75 ans, l'inhumanité et la barbarie s'abattent sur les populations civiles du Moyen-Orient, tour à tour victimes de groupes armés ou d'États, surtout soucieux d'asseoir leur domination politique, religieuse ou économique. Depuis le 7 octobre, l'horreur a pris une nouvelle dimension qui dépasse les actions individuelles dont chacun devra répondre. Il s'agit maintenant de l'écrasement technologique d'hommes, de femmes et d'enfants auxquels on dénie le droit de vivre sur la terre où ils sont nés. À Gaza comme en Cisjordanie, l'État d'Israël bafoue le droit international et se comporte en puissance coloniale. À Gaza, ce sont plus de 30 000 morts identifiés, en majorité des femmes et des enfants, des milliers de blessés, une population civile déportée, sans accès à l'eau, à la nourriture, au carburant, aux soins médicaux. Le Jérusalem Post du 30 décembre fait état de 70% des logements détruits sur la bande de Gaza. C'est aussi le déversement volontaire d'eau polluée de la Méditerranée en entraînant la pollution de toutes les nappes phréatiques, rendant quasiment impossible la reconstruction de bâtiments sur des terrains rendus instables. Les experts en hydrologie estiment qu'il faudra 100 ans pour se débarrasser des effets environnementaux de cette guerre. Ces violences sont d'un niveau sans précédent dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi dans de nombreux conflits récents. C'est plus de bombes larguées en 3 mois par Israël sur Gaza que pendant 1 an sur toute l'Ukraine par la Russie. sur un territoire 2000 fois plus petit. Comme le dit un historien américain, Gaza est l'une des campagnes de représailles contre des civils les plus intenses de l'histoire de l'humanité. Saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a considéré ces éléments suffisamment graves et sérieux pour exiger d'Israël des premières mesures conservatoires en attendant le jugement sur le fond pour génocide. La réponse ne s'est pas fait attendre. Sur la base de la possible participation au crime du 7 octobre de 9 employés sur 13 000 que compte l'UNRWA, cette organisation onusienne qui depuis 1949 canalise une grande partie de l'aide financière aux populations palestiniennes confinées dans des camps. Se voit mis en cause et nombre de pays qui soutiennent inconditionnellement Israël, dont la France, ont déjà suspendu leurs contributions. La France, qui annonce aussi continuer de livrer des armes à Israël, se rend ainsi complice d'un possible génocide. De même que les entreprises installées en France qui participent activement à l'isolement des populations palestiniennes et soutiennent directement ou non la colonisation, comme DHL, des institutions bancaires, Carrefour, AXA et bien d'autres. Ce deux poids, deux mesures est inacceptable. Donc ça, c'est la partie un peu explicative de la nécessité de constituer ce collectif de soutien au peuple palestinien. Et puis, dans un deuxième temps, ce collectif a, disons, pris a publié un petit document où il y a quatre points sur lesquels ce collectif s'est mis d'accord. Le collectif agit pour exiger, premièrement, le cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population. Deuxièmement, l'ouverture d'urgence de couloirs humanitaires à Gaza et la levée du blocus. Troisièmement, le retrait des forces armées israéliennes des territoires de Gaza et de Cisjordanie. Quatrièmement, la libération de tous les prisonniers otages de l'un et l'autre camp. Voilà. Et ça c'est les quatre points sur lesquels ce collectif d'organisations assez différentes s'est mis d'accord, en laissant déjà ces points, cesser le feu, l'ouverture d'urgence, c'est un tract qui a été écrit au mois de février. C'est toujours pas réalisé, et puis c'est pas évidemment les collectifs petits comme on est qui risquent de changer la donne, mais dans tous les cas, ça permet d'entretenir l'information, d'entretenir la solidarité, surtout que ce collectif a pris le parti aussi d'être solidaire très concrètement, en particulier parce que les déclarations, c'est toujours, ça fait plaisir à entendre, mais ça résout rien, pas grand-chose de concret. Et le collectif aussi a pris le parti donc d'être solidaire avec une organisation de médecins palestiniens qui s'appelle Palmed et qui agit pour secourir les blessés qui sont évidemment très nombreux. Et parmi la récolte de dons qui ont été faites, on est arrivé là dans pratiquement en une ou deux soirées à récolter environ 1000 euros pour donner à cette organisation qui agit très concrètement aussi sur le terrain. Voilà, donc ça c'est au cours du rassemblement du 8 février que cette souscription volontaire est intervenue et donc ça a permis de récolter ça. Donc c'est quelque chose de très concret et nous à la CNT c'est vraiment ce qui nous a permis de s'intégrer dans ce collectif très, très facilement. Voilà. Alors, la CNT, pour sa part, avait déjà fait un premier tract. C'est nos camarades de la Fédération CNT Postale, la Fédération CNT-PTT, qui a publié un tract en janvier déjà sur pour le boycott de la société DHL. Hein, donc, puisque le titre du tract s'appelle « DHL boycotte la Palestine, boycottons DHL ». Le tract, je vais le lire là. Déjà en 2014, la fédération CNT-PTT avait soutenu le syndicat des travailleurs des services postaux palestiniens et organisé une collecte pour aider à la reconstruction du bureau de poste de Rafah, détruit par les bombardements israéliens. Aujourd'hui, l'appel de nos camarades des services postaux palestiniens se fonde sur de graves préoccupations concernant les actions de DHL Express, notamment son refus de reconnaître les adresses postales palestiniennes. Les citoyens palestiniens sont contraints de modifier leur adresse, leur identité et leur nationalité pour bénéficier des services de la société en prétendant faussement être des citoyens israéliens. Sous occupation coloniale et sous les bombes, nos camarades de Palestine déclarent « Nous, syndicats des travailleurs des services postaux palestiniens, demandons aux syndicats internationaux et aux personnes de conscience du monde entier de nous soutenir dans notre lutte pour affirmer et sauvegarder l'identité palestinienne sur la scène mondiale. Nous, syndicats des travailleurs des services postaux palestiniens, exigeons qu'aucune entreprise ou entité ne soit autorisée à effacer notre identité et notre adresse. » Nous appelons un front uni contre DHL Express jusqu'à ce qu'il adhère au droit international dans les territoires palestiniens occupés, qu'il cesse de soutenir l'armée d'occupation et qu'il mette fin aux publications provocatrices contre le peuple palestinien. Voilà. Donc ça, c'est des actions de solidarité très concrètes qui sont menées soit par les collectifs, soit par la CNT directement. Voilà. Donc ça, c'est... on a eu au mois de janvier donc ce tract d'appel contre DHL. Au mois de février, très concrètement, là où on est à Choisy, dans le Val-de-Marne, on a participé à un rassemblement en centre-ville. Il a réuni environ 150 personnes. Et comme je l'ai dit, une collecte a été faite et environ 1000 euros ont été collectés pour l'association Palmed. Voilà. Et ce collectif a également réalisé une soirée le 20 mars, donc c'est très, très récemment, avec Salah Hamouri, ancien prisonnier politique, avocat franco-palestinien, et Mohamed Zanoun, photoreporter gazaoui en visio depuis l'Égypte. Donc c'est une soirée qui s'est déroulée le 20 mars à Orly, et donc Blanche, tu y étais.
Oui, tout à fait. Donc pour dire que c'était une soirée qui a été effectuée en plein cœur des cités d'Orly. Donc ça, c'est quelque chose d'important à souligner. La visio avec Mohamed Zanoun, c'est ce photoreporter gazaoui qui a été blessé, gravement blessé, et qui était en visio depuis l'Égypte. Donc, on voyait bien qu'il était bien, bien sonné, hein, c'était assez impressionnant. Beaucoup de personnes étaient présentes, il y avait plus d'une centaine de personnes, quand même, c'est énorme. On pouvait voir quand même, il y avait la moitié de militants, hein, avec toutes les organisations syndicales et politiques qui font partie du collectif, mais il y avait la moitié des quartiers. Donc ça, c'est quelque chose de très parlant. Et j'ai remarqué beaucoup de femmes voilées seules, sans leur mari, qui étaient à cette rencontre. Donc c'était vraiment une très bonne soirée. Il y a même Salah Hamouri qui a répondu à des questions, qui a parlé de la situation à Gaza. Mohamed Zanoun aussi, les deux. Enfin bon, le public était très attentif, à poser des questions. Et donc, Salah Hamouri, sur place, a dédicacé des livres. Il a fait un livre sur prisonniers de Jérusalem. Et ce livre a été édité par Libertalia, donc pas loin de chez nous. Donc c'était, ils ont parlé des interrogatoires, les incarcérations, les transferts. Tout est conçu dans l'objectif de détruire psychologiquement les prisonniers palestiniens, afin qu'une fois sortis, ils soient dociles et renoncent à lutter pour leurs droits. Mais c'est un très mauvais calcul. Les autorités israéliennes d'occupation se trompent complètement. Pour moi, dit Salah Amouri, pour moi, comme pour beaucoup de mes camarades, la prison est devenue un défi. Plus ils ont essayé de me faire plier, plus j'ai concentré mes forces à rester fidèle à mes convictions. Voilà, donc Salah Amouri est né en 1985 à Jérusalem. Il est franco-palestinien. Il a passé plus de 10 ans dans les prisons israéliennes, d'abord condamné à tort par un tribunal militaire, puis emprisonné sous le régime de la détention administrative, sans inculpation ni procès. En décembre 2022, le gouvernement israélien a signé l'ordre de déportation de Salah Amouri vers la France, créant un précédent inquiétant. Dans ce récit poignant, donc du livre « Prisonnier de Jérusalem », il raconte la vie carcérale des détenus palestiniens et souligne l'importance de la solidarité internationale. Voilà, et donc c'était une soirée très, très importante et, pour dénoncer tous ces massacres. Pour dénoncer tous ces massacres. Et donc, on a appris aussi que pour sortir de Gaza, ça coûtait 30 000 euros. Donc on voit quand même que il est très difficile de pouvoir sortir, de pouvoir se réfugier, pouvoir aller ailleurs. Donc c'est très compliqué. Voilà. Donc c'était une soirée quand même très importante parce qu'il y avait beaucoup de gens impliqués, beaucoup de personnes des cités qui sont venues et qui ont participé de manière active, voilà.
Oui, puis c'est des témoignages directs et concrets par ceux qui vivent l'occupation israélienne. Alors, il y a aussi des actes qu'il faut souligner, des actes pour la Palestine par les Israéliens eux-mêmes. Voilà, il y a un communiqué qui date du 4 mars, qui vient d'être publié, dont le titre est « Palestine, solidarité et fraternité ». Une coalition de militants et de syndicalistes israéliens ont publié cette déclaration en réponse à l'action de dockers syndiqués en Belgique et en Espagne, qui ont refusé de charger des navires avec des munitions à destination d'Israël. Nous, sous-signés, citoyens israéliens et militants d'organisations syndicales et politiques, qui sommes choqués et horrifiés par les actions du gouvernement israélien des forces armées et qui voulons un avenir de fraternité entre Israéliens et Palestiniens, considérons les actions mentionnées ci-dessus des syndicats belges et catalans comme une réponse appropriée et digne de louange au carnage terrible à Gaza. Nous appelons tous les autres syndicats du monde entier à imiter cet exemple, à refuser de construire des armes destinées à Israël et de charger ou décharger de telles armes. Donc c'est une déclaration du 4 mars 2024 de l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Voilà, donc il y a dans ce monde de brut des sources d'espoir encore bien faibles, mais qu'il faut quand même constater et valoriser. Dans un autre ordre d'idées, mais c'est pareil, dans ces moments de carnage, quelquefois la poésie, la lecture permettent aussi une forme d'évasion. La CNT Région Parisienne a publié en 2017 un livre qui s'appelle « Seulement 10 mètres », Ce sont des nouvelles de Palestine, dont les auteurs sont Nassar Ibrahim et Najed Massar. Ils sont tous deux palestiniens. L'un est journaliste, l'autre est chirurgien. Ils vivent à Beit Sahour, en Cisjordanie. Sur un temps long de plusieurs années, ils ont écrit 14 nouvelles, soit en langue arabe, soit en langue anglaise, et pour la première fois, traduites en français. Fiction ou pas, peu leur importe. Que ce soit l'histoire d'un chien enchaîné, harcelé par le même berger pendant des mois, qui parvient enfin à s'enfuir, ou celle d'un chirurgien qui cherche son fils de 10 ans à travers les rues de Beit Sahour en plein couvre-feu, ces textes livrent des bribes du quotidien des Palestiniens, évoluant sous l'ombre toujours grandissante de l'occupation et de son mur. Malgré la gravité de certains récits, au goût amer et funeste, le pathos n'y a pas sa place. On peut s'émouvoir, être révolté, tout en partageant soulagement, sourire, complicité et même parfois espoir. Un quotidien qui soulève des réflexions dépassant largement la question palestinienne. Montée de la haine, enfermement et solidarité. Donc on peut se procurer ce livre qui s'appelle « Seulement 10 mètres » en le commandant au service librairie de la CNT région parisienne au 33 rue des Vignoles, Paris 20e. Mais on peut aussi se déplacer, puisque à l'écoute, on a sûrement pas mal de Parisiens. Eh bien, on peut se déplacer les jours de permanence, donc au 33 rue des Vignoles. Voilà. Et pour clore ce chapitre dramatique, on peut rappeler... ce qui a été la fin de l'édito du combat syndicaliste de février de 2024, que ce soit en Palestine ou ailleurs, à la CNT, nous sommes pour un avenir de coopération internationale, dans une libre fédération de peuples ouverts et libres de toute domination et dans laquelle les classes seront abolies.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse. Et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable. Un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Un nouveau cancer qui nous ronge, ou qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise, et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Paye des pinottes pour le produit, et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se sont appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau. Sans se soucier des écosystèmes, c'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, On repensera au genre humain qui, à cause de la part du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui souhaitent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'or bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à se tordre.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 et plus précisément à l'écoute de l'émission des syndicats du Val-de-Marne, micro-ondes 94. Avant la pause musicale, on faisait référence à la fin de l'édito du combat syndicaliste paru en février 2024. Le combat syndicaliste, vous le procurez en vous déplaçant soit donc aux permanences syndicales de la CNT au 33 rue de Vigneulles à Paris les lundis de 14h à 19h, les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à midi. Donc la deuxième partie de cette émission micro-ondes va être consacrée à la présentation de l'exposition qui va être présentée à l'occasion de la journée de la déportation le dimanche prochain, dimanche 28 avril. Et puis on va profiter de que l'exposition soit présente le 28 pour l'inaugurer le samedi 27. Comme ça, on aura 2 jours à la Bourse du Travail de Choisy, 27 boulevard des Alliés, 94 600 Choisy-le-Roi. Il y a d'autres salles à Choisy-le-Roi, mais en ce qui concerne la CNT, nous privilégions la Bourse du Travail, parce que d'abord, les salles qui le permettent, mais aussi pour que les Bourses du Travail, et celle-ci en particulier, retrouvent un peu ses buts d'origine, c'est-à-dire non seulement défendre, avoir un lieu où les salariés puissent organiser leur défense, mais également un lieu où la culture, l'histoire peuvent trouver également leur place, également destinée aux salariés. Et c'est la raison pour laquelle, au moins 2 fois par an, la CNT organise soit des conférences, soit des débats, soit des expositions ou des projections à la Bourse du Travail le samedi pour que justement les salariés puissent aient le temps de se déplacer et de venir voir ce qu'il s'y passe. Alors, la journée de la déportation de ces 27 et 28 avril prochains portera donc sur la déportation des Choisiens en général, soit ceux qui sont nés à Choisy et qui vivaient à Choisy au moment de l'occupation, ou soit, comme c'est le cas des républicains espagnols, qui se sont installés à Choisy après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été déportés. Cette exposition aura 3 volets. Le premier concernera donc les déportés plutôt né à Choisy, Choisyens, etc., qui, pour faits de résistance ou autres, ont été déportés. Et dans cette partie-là, il y aura également les Juifs également qui ont été bien sûr déportés. Et un deuxième volet avec une exposition sur le camp de Mauthausen précisément, puisque dans cette journée, l'association 24 août 1944 est co-organisatrice avec la CNT et la FMD, l'association des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation de Choisy. Donc c'est une exposition qui sera présentée donc pour la deuxième fois en région parisienne, très complète et très exhaustive sur le camp de Mauthausen et sur ce qui s'est passé et à l'intérieur du camp, à l'initiative des républicains espagnols. Et un troisième volet qui présentera les photos qui ont été présentées au procès de Nuremberg et qui avait été détourné par les républicains espagnols. Voilà, donc c'est un programme assez chargé et d'exposition, mais on l'a bien souvent beaucoup oublié, c'est le rôle de résistance, un rôle de résistance passive est tellement important des républicains espagnols au camp de Mauthausen. Parce qu'on envisage souvent la résistance avec des armes pour tuer. Là, les armes, qui évidemment, les Espagnols au camp de Mauthausen ne les avaient pas, mais ils en ont utilisé d'autres tout aussi importantes. Alors, on va revenir un peu assez brièvement le plus brièvement possible sur l'histoire de ces républicains au camp de Mauthausen. Il faut évidemment se reporter à la guerre d'Espagne qui se termine, comme on le sait, par la retirada, c'est-à-dire 500 000 réfugiés qui passent la frontière en février 1939 pour échapper à la répression impitoyable du franquisme, et ils arrivent en France, sont parqués, concentrés dans des camps que l'administration française appellera camps de concentration sur les plages du Roussillon, à Argelès, à Saint-Cyprien, mais également à l'intérieur des terres, à Gurs, à Bram, il y a de nombreux sites où les réfugiés ont été emprisonnés. Et puis, en septembre 1939, avec la déclaration de la guerre et cette période qu'on appellera la drôle de guerre jusqu'à juin 40, eh bien, l'armée française, qui a déjà mobilisé toutes ses troupes, eh bien, a besoin encore de main-d'œuvre et se souvient qu'elle a des Espagnols dans les camps. Et un certain nombre d'entre eux, environ 7000, vont être intégrés dans des compagnies de travail sur la ligne Maginot ou ailleurs, mais sur les fronts occupés par les troupes françaises. Quand ils sont faits prisonniers en même temps que les 1 800 000 soldats français, les Allemands se trouvent confrontés à une situation pour eux un peu particulière, parce que ces Espagnols qui sont portent un vague uniforme français, ne portent pas d'armes, ont été faits prisonniers sans armes, avec des outils, et donc ils se posent la question de quoi en faire et ils interrogent Franco pour savoir quoi en faire. Franco ne répondra pas aux autorités allemandes et Et du coup, les autorités allemandes conduisent les Espagnols vers le camp de Mauthausen, qui se trouve en Autriche. Et c'est eux qui... le camp existait déjà dans des baraques en bois, mais eux vont le construire, vont faire sa construction en solide, puisque ils sont parmi les premiers arrivés de la guerre. Et ils construisent en dur, puisqu'il y a une carrière juste à côté, dans laquelle ils vont travailler aussi à l'extraction de pierre, etc. Et ils vont construire les bâtiments en pierre, et ils vont subir de très grosses pertes dans les années 41, principalement 41 et 42, puisque des 7000, 5000 vont périr très rapidement. Et très rapidement sur ces deux années-là. Et ensuite, et concomitamment, les Espagnols, qui ont un long passé de politique, hein, puisque il faut toujours le rappeler, les Espagnols qui passent la frontière en 1939, ils sont anarchistes, ils sont socialistes, ils sont communistes, ils sont républicains, et ils ont tous une grande conscience politique. Et quand ils se retrouvent tous ensemble au camp, eh ben ils imaginent immédiatement comment résister et créer d'abord un réseau de solidarité entre eux, bien sûr, pour sauver sa peau et essayer de sauver celle des autres. Et ils constituent et développent deux choses très rapidement. La première, ils tiennent un registre de tous leurs camarades qui sont morts. Ce registre est tenu par les nazis, évidemment, du camp, et eux, ils en tiennent un en parallèle. On n'imagine pas... ils n'imaginent pas, certainement, ce qu'ils vont faire de ça. Mais ils pensent que c'est important d'essayer de garder en mémoire tous ces camarades qui sont morts, c'est-à-dire garder leur nom, et il y avait aussi leur lieu de naissance, leur date de naissance et évidemment leur date de décès. Et ils ont pendant une période très longue, hein, de pratiquement dès le début, 1941 jusqu'en 1945, jusqu'au 5 mai 1945, à la date où le camp est libéré, ils enregistrent donc plus de 5000 noms, et ils cachent évidemment ces listes, encore une fois, qu'est-ce qu'ils imaginaient en faire ? On ne sait pas, mais dans tous les cas, eux, ça leur paraissait important de garder en mémoire la mémoire de leurs camarades morts à Mauthausen. Et puis, ils feront un deuxième geste pour l'histoire et pour la mémoire, extrêmement important. C'est le fait que dans ce camp, les nazis prenaient les SS, prenaient des photos de leurs exploits, des visites qu'ils avaient, des autorités, des gros dignitaires nazis, et ils prenaient des photos, ils étaient très contents de ce qu'ils faisaient, et ils prenaient des photos. Ils prenaient des photos, mais le développement était dévolu, tous les aspects administratifs de camp étaient dévolus à des déportés. Et parmi ces déportés, il y a deux personnes qui étaient photographes dans le civil, on peut dire, deux Espagnols, Antonio García et Francisco Bosch, qui se sont fait embaucher, entre guillemets, dans le labo photo. Et au fur et à mesure qu'ils développaient les photos pour les nazis, ils en développaient et en cachaient autant, donc dans le labo, et dans les plaintes, dans tous les endroits où ils pouvaient planquer des photos, mais il y en avait tellement qu'ils ont été assez vite débordés. Il a fallu imaginer les sortir du camp. Et là, encore une fois, le réseau de solidarité entre eux a fonctionné. Il y avait en 1944, il y a eu un arrivage de jeunes espagnols qui sont arrivés, mais des jeunes de 16 ou 17 ans, qui ont été qui travaillaient à l'extérieur du camp dans la carrière et traversaient le village de Mauthausen. Et ils s'étaient aperçus qu'une dame autrichienne leur faisait des signes amicaux, et ils ont pu à travers un subterfuge rentrer en contact avec cette femme-là et lui confier les photos qu'elle a cachées dans son jardin. Ces photos vont avoir un rôle assez exceptionnel puisque elles vont être sorties et présentées au procès de Nuremberg. Parce que les dignitaires nazis qui étaient à ce procès ont nié à connaître le fait que les camps nazis existaient. Ils ne savaient pas que les camps nazis et les camps d'extermination existaient. Alors, un des avocats a appelé Francisco Bosch qui présente les photos. Et là, évidemment, l'argument est tombé. Les nazis ont été condamnés grâce à ces actes de résistance des républicains espagnols. Donc c'est toute cette histoire-là qui va être présentée donc les samedis 27 et dimanche 28 avril à la Bourse du Travail de Choisy, et en même temps que sera présenté aussi le travail du centre d'accueil aux déportés qui a été créé par la ville de Choisy dès 1945, et puisque là il faut imaginer donc la situation de beaucoup de Français et d'Espagnols bien sûr, surtout puisque les Espagnols quand ils reviennent des camps ne peuvent pas se rendre en Espagne, puisqu'ils sont attendus de pied ferme par Franco, et il est hors de question pour eux d'y retourner. Mais ils ne connaissent pas la France. Ils ont été emprisonnés à Argelès, ensuite emmenés sur les fronts de la ligne Maginot, et ensuite à Mauthausen. Quand ils reviennent à Paris, ils ne connaissent personne, et ils ne savent pas où aller. Donc, il y a un organisme qui va jouer un rôle très important immédiat, c'est la Croix-Rouge espagnole républicaine. Elle a été reconstituée ici en France, en exil, dès le début, fin 1944, début 1945, et elle attend à la gare de l'Est les Espagnols qui reviennent des camps. Et s'occupe d'eux et les dirige vers des centres d'accueil pour que ces personnes-là savent où manger, sachent où dormir, etc. Un certain nombre d'entre eux vont arriver jusqu'à Choisy, et on a les documents de la Croix-Rouge espagnole républicaine qui ont été découverts donc aux archives municipales de Choisy, qui disent, voilà monsieur Intel qui revient du camp de Mauthausen, nous vous l'envoyons pour que vous l'accueilliez, Donc c'est des documents qui sont importants, et à partir de là, sur Choisy, il va y avoir à minima une cinquantaine d'Espagnols issus de la déportation qui vont s'installer à Choisy ou aux environs de Choisy. Et c'est ce qui va permettre ultérieurement, dans les années qui vont suivre, l'arrivée vraisemblablement d'autres personnes qui ont joué un rôle important, comme José Cortés et Martin Bernal, qui étaient des hommes de la Nouvelle, des hommes qui ont participé à la libération de Paris. Et Martin Bernal, qui a combattu dans la Nouvelle, qui en est sorti vivant, avait un frère qui s'appelait Francisco et qui a été déporté à Mauthausen et qui est sorti vivant aussi de Mauthausen. Donc, on sait certainement le fait que les déportés soient arrivés à Choisy qui a amené ces libérateurs de Paris à Choisy également. De là, s'est constituée une fédération locale de la CNT, espagnole en exil, qui donnera le jour quelques années plus tard à une fameuse imprimerie et à une fabuleuse histoire de l'imprimerie des Gondoles, qui était l'imprimerie de la CNT espagnole en exil. Voilà, donc ça va se passer les samedi 27 et dimanche 28 avril à la Bourse du Travail de Choisy de 14h à 18h. Il y aura également des visites guidées pour des expositions, pour s'y retrouver, puis pour pouvoir dialoguer avec les visiteurs. Voilà, donc après ce long périple historique, on va s'écouter une pause musicale.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais ajouter qu'il aime le cinéma de spécialité, le cinéma de cette position. Je crois que c'est mon nom du cinéma de Caravan, de la Chine, c'est le Mauritania. Et j'ai un peu de gaisir. Regardez à quel point il est là.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 et plus précisément de l'émission Micro-ondes 94, l'émission des syndicats CNT du Val-de-Marne. Alors, on est dans une période historique où on relate beaucoup l'histoire. On va passer maintenant aux 50 ans de la révolution des œillets, la révolution qui a eu lieu au Portugal. Alors, c'est pas qu'on a les yeux tournés vers le passé et qu'on soit des passéistes, mais ces histoires, notre histoire, eh ben en fait, elle est très peu à la surface des choses, puisque l'histoire, c'est aussi de la politique, et l'histoire qu'on nous inculque très rapidement, c'est surtout l'histoire des vainqueurs, c'est l'histoire des institutions, c'est l'histoire... voilà, c'est pas forcément l'histoire des vaincus. Et quand on parle de l'histoire des vaincus, on en fait une affaire politique. Hein, c'est le cas, par exemple, de la panthéonisation de Manouchian. C'est de la politique pour des internationalistes être panthéonisé avec le drapeau français. C'est quand même fort de café. Mais donc c'est la raison pour laquelle, enfin, pour les libertaires en général, pour les révolutionnaires, il faut se préoccuper de notre propre histoire, parce que sinon, elle va nous être mangée sur le dos très rapidement. Et donc là, on va évoquer la révolution sociale au Portugal, il y a exactement 50 ans, en 1974. La révolution portugaise de 1974 est connue comme la révolution des œillets, du nom des fleurs que les femmes de Lisbonne entreprirent spontanément de glisser dans les fusils des soldats. Elle commença le 25 avril 1974 à travers un coup d'état militaire dirigé contre le régime fasciste et sa guerre coloniale, et fut seulement vaincue 19 mois plus tard, de nouveau par un coup d'état militaire, le 25 novembre 1975. Ce processus fut marqué par le rôle central d'un mouvement ouvrier et social puissant qui se déploya dans tous les secteurs de la société. En mai 1974, une vague de grève d'une ampleur sans précédent déferla du nord au sud du pays. Du fait de sa mobilisation revendicative, le mouvement ouvrier déclencha une éruption de mouvements sociaux qui transforme le coup d'État dans une vraie révolution sociale. Les abondantes images et documents qui existent sur le déroulement des opérations militaires du coup d'État documentent dès la première heure la joie et l'enthousiasme général dans la population. Dès le premier jour, les rues sont en fête. Les gens fraternisent avec les militaires et les questions politiques et sociales remplacent vite les sujets de conversation habituels pour s'imposer durablement. Dans les derniers jours d'avril, il y a déjà des grèves dans de grandes entreprises. Cependant, dans ces premiers jours de liberté, le plus urgent pour les travailleuses et les travailleurs, était le processus d'occupation et d'épuration des syndicats corporatistes, autrement dit, des syndicats organisés par le régime de Salazar. Le 1er mai est célébré dans des centaines de villes et villages, du nord et au sud du pays. Des millions de personnes participent à des défilés et à des rassemblements marqués par l'euphorie provoquée par la situation ouverte le 25 avril. La manifestation à Lisbonne est gigantesque. Les journaux du lendemain estiment à 1 million le nombre de manifestants. Le contenu et le ton des discours des syndicalistes évoquent ouvertement la nécessité d'une transformation radicale de la société et on y décèle la haine profonde des travailleurs à l'égard de l'appareil répressif du régime déchu. Présent au sein des entreprises et financé par les salaires des ouvriers, le désir de justice s'impose par rapport à la répression et les humiliations subies. Dans les conflits de travail, aux côtés des revendications purement matérielles, apparaissent d'autres de nature politique et sociale, comme l'épuration qui remet en cause la toute-puissance du patron sur le lieu du travail. Le processus révolutionnaire portugais a été porté par les luttes ouvrières, l'occupation et l'appropriation des entreprises, d'autres unités productives et de structures dans l'éducation, le logement, et regorge de cas dans lesquels les travailleurs ont imposé par le bas un système autogéré sur leur lieu de travail. Début août, on estime que 380 entreprises étaient déjà passées à l'autogestion. D'autres estimations portent à 1 000 000 le nombre d'entreprises dans cette situation. Alors, voilà une présentation générale de la situation il y a 50 ans au Portugal. Et donc, le 18 mai prochain, au 33 rue des Vignoles, il va y avoir un film qui s'appelle celle de Sogantal. C'est une entreprise autogérée de femmes qui, à partir de cette date-là et pendant plusieurs mois, vont gérer leur entreprise. Donc, ça sera la projection d'un film documentaire le 18 mai à 15h au 33 rue des Vignoles, donc au siège de la CNT, au Paris 20e, en présence d'un témoin militant de la CNT, Carlos, qui sera là pour commenter la journée et répondre aux questions et puis aller encore au-delà de cette commémoration. La réalisatrice sera également présente, la réalisatrice du film. Donc on va avoir deux personnes très importantes dans ce débat autour de cette projection pour en savoir plus sur cette révolution portugaise, révolution inconnue, hein, comme celle de 17 présentée par Volune, ou celle de 36 de la CNT, et puis celle des œillets, pareil. Donc voilà, si on veut garder notre propre mémoire, eh bien, rendons-nous aussi le 18 mai au 33 rue des Vignoles. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 et plus précisément à l'écoute de Micro-ondes 94, l'émission des syndicats CNT du Val-de-Marne. Nous évoquions donc le 18 mai prochain, au 33 rue des Vigneulles, aura lieu la projection d'un film qui s'appelle « Celle de Sogantal », qui évoque cette entreprise autogérée en 1974 à l'occasion de la révolution des œillets. Donc le Sogantal était une entreprise textile à capitaux français qui produisait des survêtements au Portugal, profitant des maigres salaires et de l'absence de pression syndicale avant le 25 avril 1974. L'environnement de travail était très répressif. Le 25 avril, une travailleuse a été suspendue pendant 4 jours pour avoir quitté son travail pendant 1h30, refusant de suivre les cadences. Le 20 mai, les travailleuses ont déposé un cahier revendicatif réclamant un mois de congé payé, le 13e mois, et une augmentation générale de 1200 pesos pour toutes, et établissent un rapport de force en réduisant les cadences de travail. La réponse de l'employeur a été de n'accepter que ce qui était stipulé par la loi. Le 30 mai, le patron a annoncé sa décision de mettre un terme aux activités de l'usine, décision qui a été communiquée au ministère du Travail le 8 juin. Les travailleuses, mises devant le fait accompli, doivent prendre une décision. Le ministère propose que l'entreprise soit nationalisée et reconvertie, que l'État trouve un homme d'affaires intéressé ou que les salaires soient payés par l'État pendant la fermeture de l'usine. Le 13 juillet, l'administration et son représentant portugais ont quitté les lieux. L'usine tombe aux mains des travailleuses qui continuent de produire et vont commencer à vendre les réserves disponibles pour payer les salaires. Elles sont soutenues par des partis et groupes d'extrême gauche, ainsi que par le syndicat du textile et de l'habillement du Sud. Des ventes militantes de survêtements sont organisées dans les écoles et les usines. Les premières ventes parviennent à payer une partie des sommes dues aux travailleurs. Dans la nuit du 23 au 24 août, Pierre Larda, le propriétaire, à la tête d'un commando d'une vingtaine d'éléments recrutés en France, reprend l'usine avec l'intention d'en retirer les machines et les marchandises. Mais les habitants remarquent des choses étranges et mettent les travailleuses en alerte. En fin d'après-midi du 24, il y a un rassemblement à l'extérieur de l'usine. Les gens se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ils pénètrent de force dans les locaux et avancent sur le groupe d'hommes amenés par le patron, protégé par la garde nationale républicaine, la police militarisée portugaise. Le commando abandonne l'entreprise, encadré par les troupes de la garde nationale républicaine, au milieu des huées et des insultes de la population. Les agissements du patron ont suscité une vive controverse. Il a été établi que les autorités étaient au courant des projets d'opération. Après la tentative violente de reprise de l'usine par le patron, les travailleuses en prennent possession et vont la gérer pendant 1 an et demi, tout en vendant les stocks et la production pour se payer les salaires. Voilà, en résumé, le film qui va être projeté donc le 18 mai prochain au 33 rue des Vigneulles à 15h, c'est celle de Sogantal, cette entreprise autogérée à l'occasion de la révolution des œillets d'avril 1974 au Portugal.
Ça fait 20 ans qu'on nous explique, la lutte de classe s'est dépassée. Au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite, la gauche capitaliste, ont ouvert la voie aux fascistes. Alors ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Qui peut rêver du RMI, même si certains estiment que c'est bien trop, que ça suffit. Que celui qui n'a pas d'emploi n'a qu'à se contenter de ça.
Ne te trompe pas de colère. des milliardaires, avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime lorsque personne n'intervient, que la peur hante tes voisins, t'encaisse les coups dans ta cuisine. Des gosses dans la cage d'escalier, au moins ils te voient pas pleurer.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La gauche, la droite avait promis, tu les as crus, ils t'ont trahi, maillon faible qu'on élimine. Au bistrot, tu rêves de vengeance, tu bois contre l'indifférence.
Ne te trompe pas de colère, et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Les frimes disant qu'il faut se résigner. Faut sacrifier pour l'entreprise, car à la bourse c'est la crise.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Quand même avec ses airs de fête, la grève se transforme en défaite et la précarité te guette. Et quand tu veux manifester, les flics protègent les beaux quartiers.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Mais pense à ton copain Karim, avec qui tu te fends la gueule, celui dont tu dis que c'est le seul. Qu'avec lui ce n'est pas pareil, que ce mec-là c'est une merveille.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre. Oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La ville est terrorisée, dans ton esprit sont mélangés New York, Nanterre, la Palestine. En confondant peur et courage, dans l'isoloir tu te soulages.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre.
C'est pas
oui, méfie-toi des milliardaires.
Pour le Front National, va-t'en le politique.
Pas question de se laisser faire.
Michel est avant-hier.
N'oublie pas d'être
oui,
solidaire pour un monde égalitaire.
Ne te trompe pas de colère.
Berlusconi, Le Pen, Aznar, Haider et Blair.
Et Bush, c'est pas un milliardaire.
Chirac, Abba, un homme d'affaires.
Oui, mais tu vois,
dans les affaires.
Et t'as voté pour lui.
Ne te trompe pas de colère.
Je suis
parisienne. Toi,
maintenant, moi, je suis lycéenne. Je peux rejoindre les révolutionnaires, le classe travailleur. Ouais, ouais, c'est un prolétaire.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4 et plus précisément à l'écoute de Micro-ondes 94, l'émission des syndicats CNT du Val-de-Marne. Alors nous venons parler et d'évoquer pas mal d'histoires, mais la CNT n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas passéiste. Elle entretient simplement sa mémoire pour ne pas l'oublier et savoir vers où aller. Et prochainement, la CNT dans le Val-de-Marne va initier une campagne d'information destinée aux jeunes en général, et plus particulièrement les jeunes des filières professionnelles, afin de leur faire connaître ce qu'est le syndicalisme en général et plus précisément le nôtre. Et cette feuille informative sera distribuée donc dans les lycées pro, dans les CFA, etc. Jeunes, vous allez bientôt travailler. C'est une période importante. Vous allez gagner votre vie. La gagner, c'est-à-dire travailler chez un employeur, un patron. Un patron, il peut avoir plusieurs formes juridiques. peut être artisan, gérant, PDG. Dans tous les cas, quand il va faire appel à vous, en vous employant, vous allez avoir beaucoup de devoirs et quelques droits. C'est important de bien les connaître. Cela vous permettra éventuellement d'échapper à des abus et à des injustices. Depuis très longtemps, le droit du travail, et donc des travailleurs, est régi par le Code du travail. Et dans chaque branche d'industrie, bâtiment, métallurgie, industrie du bois, commerce, des conventions collectives ont précisé les salaires en fonction des qualifications. Il est donc important de connaître tous ces aspects pour faire respecter ses droits, mais aussi pour être maître de son chemin dans les dédales de la société dans laquelle vous allez rentrer. Pour en savoir plus, pour ne pas rester isolé, les travailleurs se sont organisés depuis longtemps dans des syndicats. Les syndicats existent pour défendre les travailleurs. En ce qui concerne la CNT, notre syndicalisme est organisé par les travailleurs eux-mêmes de façon bénévole et collective. Cela nous met à égalité entre nous, entre tous, jeunes ou vieux, gars ou filles, blancs ou noirs, nous sommes et resterons à égalité dans le syndicat. Mais ce que nous voulons aussi, c'est que cette égalité s'étende au monde du travail et que tout le monde soit respecté, quel que soit son niveau de qualification, sa couleur de peau, son sexe, etc. Vous vous posez des questions, vous voulez en savoir plus? En venant au syndicat CNT, vous ne serez ni jugé, ni méprisé, et d'ores et déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pourrez nous rencontrer à la Maison des syndicats aux Bourses du Travail, au 27 boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi, au premier étage, tous les vendredis de 17h30 à 19h, sans rendez-vous. Voilà donc cette campagne que nous allons mettre en place pour les jeunes, mais ce ne sera pas que pour les jeunes, parce que tout le monde est concerné. Il y a trop de salariés qui ne rencontrent pas les syndicats ou qui ne connaissent pas les syndicats. Dans de nombreuses entreprises, il n'y a aucune représentation du personnel, en particulier dans les petites, et il faut donc aller à leur rencontre et faire en sorte que le syndicalisme revive, hein. Il a vécu un petit peu des choses intéressantes l'an dernier avec le mouvement des retraites, mais c'est pas suffisant, on l'a bien vu, faire vivre le syndicalisme dans des manifestations, etc., à ses limites, hein. On peut manifester longtemps et le pouvoir s'en fout un petit peu. Donc il va falloir imaginer d'autres choses, et pour ça, ça va être aux nouvelles générations, mais pas seulement, de les imaginer. Alors voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On va vous rappeler que les prochaines auront lieu. Prenez vos agendas, parce que c'est dans longtemps. Ce sera le dimanche 30 juin, le dimanche 29 septembre et le dimanche 29 décembre. Hein, parce que nous le rappelons, cette émission a lieu très régulièrement, mais seulement tous les cinquièmes dimanches qui existent dans l'année. Et il n'y en a que quatre. Donc il faut... Il faut les noter, sinon on est sûr de les oublier. Voilà, donc merci à Blanche pour la technique et à une prochaine fois dans cette émission Micro-ondes 94, l'émission des syndicats de la CNT du Val-de-Marne. Bonne continuation à toutes et à tous et à bientôt.
dents qui grinçaient. Connard qui grinche, il voulait que de la guinche, mais y'a mes textes qui coincent. Ici c'est pas le comedy club, alors c'est go qui rince. Ici y'a rien à boire pour les âmes qui n'ont pas soif. Fais pas le surf, t'auras peut-être un autographe. Y'a que le stress qui inspire mes paragraphes. Et j'ai écrit ce couplet après un rendez-vous à la CAF. Mes idées sont en place, mes réalités sont tenaces. En fin de mois la grimace, mais le nez fait pugnace. Donne-moi un arc, des flèches, une instru qui t'a passé. J't'enverrai des vibes qui te feront flipper ta race.
Libre, libre, libre.
Caricaturas de lo popular, alimentando postales folclóricas, con melodías practicadas academia, arrastran el sinsentido de la moda pasajera. Le falta calle, le sobra pose, como se nota que no conocen el ritmo del fuego y la adrenalina del verso que se cocina en los cuerpos canturreando con los cueros.
Et comme des contristes, on s'exprime sur la piste, laisse passer les artistes, aspiration indigéniste, un folklore populaire, une technique de combat, une vibration prolo pour faire trembler les bourgeois, une incitation à la révolte, une transmission ancestrale, une communion fraternelle, un doigt d'honneur magistral, l'arrogance du peuple, la rage des terres coloniales, des chants et des danses comme un caravane s'installe.
Libre, libre, libre.
Por años viajando, entre los quietos los rincones va mezclando toda la voz, la alegría y el sabor. Mi caravana es un refugio a la opresión. Todos los días resistimos el engaño, humillaciones, privaciones aguantamos. Con el salvaje ritmo de la indignación cargada va la fuerza de nuestra canción.
Peinture guerrière, rituel amer, tirant dans la poussière, viscère à découvert, audace en bandoulière, à l'unisson, vociférer. Mon folklore, mon art, mon arbalète, mon lance-pierre. Les camps ont la parole, symphonie cabossée, on chante comme des casseroles. Orchestre déglingué, on veut pas le premier rôle. Fanfare colérique, puis Palestine sur ma banderole.
Libre, libre, libre.
Et c'est à 17h que commence cette version du mélange, ici même sur Radio Libertaire. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30, peut-être même un peu plus parce qu'il y a pas mal de choses à jouer. Et je vais profiter, profiteur que je suis, du fait qu'il n'y a personne après le mélange pour peut-être prendre un petit peu d'antenne et jouer ce qui n'aura pas été joué. Bon, bah déjà, dès le début du mélange qui n'a même pas commencé, j'ai déjà des auditeurs qui attendent à travers le monde. Mais si, mais si, j'ai la charmante Santa qui nous écoute dans les montagnes de l'Oural, ainsi que Robert à Los Angeles. Bon, on y reviendra tout à l'heure, on leur redira un bonjour un petit peu plus tard. Mais on va commencer le programme avec John Lee Williamson. John Lee Williamson, plus connu sous le nom de Sonny Boy Williamson, mais à ne pas confondre avec un autre. John Lee Williamson, l'original, né dans le Tennessee aujourd'hui, non pas aujourd'hui même, le 30, dans le Tennessee le 30 mars en 1914, mort assassiné à Chicago en 1948, et dès le début des années 40, un autre gaillard qui lui aussi jouait de l'harmonica, qui s'appelait Rice Miller, a décidé de servir du nom du premier, puisqu'il était déjà bien célèbre, de manière à augmenter, disons, son pouvoir de vente de disques. En tous les cas, Sonny Boy Williamson, number one, John Lee Williamson, on écoute ici dans un des morceaux qu'il a écrit et qui l'ont rendu célèbre, un enregistrement fait dans le, du côté de Chicago dans les années 30, Sugar Mama Blues.
Sugar mama, please come back to me. Sugar mama, sugar mama. Sugar mama, please come back to me. Bring me my graduated sugar. Sugar mama, and try to ease my misery. You've got this new grade of sugar. Sugar mama, you done made me love you too. You've got this new grade of sugar. Sugar mama, you done made me love you too. You've got this graduated sugar. Sugar mama, ain't nobody else got but you. They've been bragging about your sugar. Sugar mama been bragging all over town. They've been bragging about your sugar. Sugar mama bragging all over town. Naughty bootleggers want you to sell them enough to make whiskey, but you won't sell them but about 4 or 5 pounds. Night. I like my coffee sweet in the morning. You know and I'm crazy about my tea at night. Don't get my sugar 3 times a day. Oh Lord, and I don't feel right.